Rayon libre.
Visiblement, il semblerait que vous n'appréciez pas la bicyclette, mes amis, hein? Vous estimez sans doute que le monde n'a pas besoin de pratiquer le vélo, hein? Que le monde n'a pas besoin d'un peu de cyclisme ni de savoir-vivre, hein?
Rayon libre sur Cause Commune.
L'idée, c'est que toutes les personnes qui peuvent faire du vélo le fassent. Et il y a encore de la marge, hein?
Je pense que le vélo, c'est tellement un outil qui rend libre.
Rayon libre, présenté par Jérôme Sorel sur Cause Commune.
Hello, bonjour à tous, il est 14h, c'est Rayon libre et nous ne sommes pas en direct. Cette semaine, le vélo, une parenthèse ou une virgule. L'émission vous plaît, elle vous déplaît, elle pourrait intéresser quelqu'un dans votre entourage, et bah partagez-la, faites-la circuler, faites-la tourner. Rayon libre, c'est comme le vélo, c'est mieux quand on tourne les jambes. Cause Commune, la radio qui accueille cette émission, merci à vous tous et à toutes qui œuvrez pour cette radio associative pour qu'elle puisse continuer à émettre. Merci aux auditeurs et aux auditrices, aux cyclistes et pas cyclistes qui nous écoutent, aux invités qui viennent se raconter, à Wheels aussi, et enfin, évidemment, merci à Abel Guggenheim. Si le vélo était une ponctuation, ce serait quoi? 3 points de suspension, comme une histoire qui n'est pas terminée, qu'il faut imaginer. 1 point, tout con, tout bête, la séparation entre la fin d'un moment d'une vie et le début d'une autre. 1 point d'interrogation, parce que le vélo soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses, parce que la quête de ces réponses est un chemin que l'on voudrait sans fin. 1 point d'exclamation, parce que le vélo, c'est la surprise, l'enchantement, l'émotion, ou une parenthèse, ou deux peut-être, parce que le vélo, le moment est hors du récit, un aparté, une précision. 1 point-virgule, pas tout à fait 1 point, pas tout à fait une virgule. Le point-virgule sert à équilibrer une phrase longue. À vélo, le point-virgule serait cela, une pause qui n'en est pas tout à fait une, de la journée, de la semaine qui s'étire. 2 points, parce que le vélo apporte une énumération, une longue liste de choses de possibles. Le vélo serait-il des guillemets, un tiret, un crochet, une accolade? Je vous laisse décider. Le vélo serait-il une virgule, un moment de respiration qui semble ne rien changer, mais qui change tout? Ce petit signe insignifiant, mais indispensable en grammaire. Allons manger les enfants, ou allons manger, virgule, les enfants, c'est pas tout à fait la même chose. Mon invité du jour, quel signe de ponctuation il proposerait pour définir ce qu'est le vélo pour lui? La virgule peut-être, en tout cas c'est le nom de son entreprise. La virgule est une petite boîte qui, l'air de rien, a de grandes ambitions. Les ambitions sont-elles en termes de chiffre d'affaires, d'impact, de solidarité, de circularité? Et puis c'est quoi la virgule? Et pourquoi la virgule? Nathan Douillard, il va nous raconter. Bonjour Nathan, merci d'être avec nous au micro aujourd'hui.
Bonjour Jérôme, quelle intro.
Eh oui, donc alors dites-moi Nathan, si le vélo était une ponctuation pour vous, ce serait quoi?
Bon, la virgule, évidemment, je vais pas en donner une autre. Pourquoi on a appelé, en fait, donc moi je suis Nathan, j'ai cofondé une marque qui s'appelle La Virgule.
Ouais.
Pourquoi ça s'appelle La Virgule? C'est que c'est plus un point final. Point final à quoi? Un point final à la vie des matières premières. En fait, on fait des sacs à dos et des sacoches vélo upcyclés. Donc ça veut dire qu'on récupère du matos de sport, du matos outdoor, donc qu'on utilise pour être dehors. Et en fait, ce matos-là, il est ultra technique, mais en fait, personne ne le recycle. Il est un petit peu recyclable, mais c'est compliqué.
Ouais.
Et donc, nous, on a décidé qu'on n'allait pas mettre un point final à la vie de ces matières. Donc, typiquement, une tente, un kayak, un Zodiac. Mais que ça va être une virgule, un petit temps où on va prendre le temps de découper ce kayak, par exemple, pour ensuite en faire un sac à dos.
Donc, vous en faites une respiration, finalement, dans la phrase.
Exactement, c'est une respiration et après t'écris la suite.
Et ce qui est intéressant, c'est lorsque vous dites Nathan, et pour le coup j'ai quand même une vraie question, j'imagine que j'en aurais d'autres, des vraies questions, mais vous dites upcyclé, c'est quoi la différence, pour d'ailleurs même pour moi mais aussi pour les auditeurs et auditrices, c'est quoi la différence entre recycler et upcycler?
Très bonne question. Le recyclage, c'est déjà un très beau pas, ça veut dire qu'en gros tu broies la matière. Typiquement, si je prends
des pneus,
tu vas pouvoir les broyer, les recycler, potentiellement refaire du pneu, mais c'est pas forcément possible sur toutes les matières. Typiquement l'aluminium se recycle merveilleusement. Tu fais de l'allure recyclée comme de l'aluminium, mais il y a plein de matières dont le textile qui commencent à être recyclées. Donc tu broies la matière, tu refiles, tu retisses, tu reteins le fil ou la matière, et ensuite tu as enfin ta matière. Nous, l'upcycling, c'est tu récupères le kayak, tu prends une bonne vieille paire de ciseaux bien aiguisés, tu mets un coup de ciseau dedans, et après tu as des carrés, des rectangles. Et c'est à partir de cette matière-là que tu peux refaire un produit. Donc, t'enlèves énormément d'étapes et donc de l'énergie, de l'eau, etc.
D'accord. Et justement, c'est intéressant aussi quand vous faites de l'upcycling. Alors, vous parlez d'un kayak, j'imagine que vous parlez d'un kayak gonflable.
Exactement.
Et non pas les kayaks en plastique.
Tout à fait.
Quand vous parlez d'un kayak gonflable ou d'un sup gonflable, où on pourrait imaginer aussi un boudin d'aile de kite aussi. Enfin bref, vous parlez d'outdoor, mais c'est beaucoup de produits d'outdoor ou c'est aussi d'autres produits dans le nautisme, dans d'autres industries que vous upcyclez?
C'est très large. En fait, on va chercher des matières qui sont techniques, parce qu'on veut que ton sac il dure une vie, que ton sac il te permette d'avoir un matos étanche pour faire du vélo. Ça peut quand même être pratique, surtout que c'est une marque qui a été créée à Lille, donc je vous laisse imaginer le besoin. Et donc on va chercher de la toile de Zodiac qui est super costaud, des ailes de kitesurf, des tapis d'escalade, des cordes d'escalade pour les fermetures. Des D'accord. voiles de parapente, des montgolfières pour des housses de vélo, etc.
Mais c'est aussi un peu l'enjeu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une aile de kite, qui est un produit qui est assez technique, qui est en général du spi, c'est comme ça. Hein.
Exactement.
Une aile de kite, elle perd de ses qualités premières quand elle sort du magasin et quand elle sort de l'usine. Vous aurez récupéré qui ont 10 heures, 10 000 heures de vol. Est-ce qu'elles ont encore les bonnes propriétés physiques?
Il y a vraiment de tout. Il y a du produit qui est encore quasiment neuf parce que c'est des prototypes qui sont peu testés et finalement ouais. On se rend compte qu'il y a un problème. Ensuite, même sur ces, même si une aile de kite, tu l'arraches en deux parce que elle finit dans une coquille de moule, j'en sais rien.
Ouais, dans les piquets.
Exactement. Et ben la matière, elle reste globalement en très bonne qualité sur la majorité du produit. Et c'est là aussi l'art du début, c'est de dire quelle matière est suffisamment potable pour faire un produit derrière. Et ouais. ensuite, on récupère les propriétés techniques de la matière. Typiquement, une aile de kite, c'est léger, c'est coloré, c'est marrant. Donc ça, on met ça à l'intérieur de nos sacs pour
coloré,
faire les poches.
Coloré, marrant, c'est pas très technique comme description d'une aile de kite.
Mais c'est léger. C'est ouais. léger et du coup, on le met à l'intérieur. Tu vois, on fait pas un sac full aile de kite surf parce que ça serait potentiellement un peu froissé, pas très agréable, etc. Mais la petite poche à l'intérieur qui vient aussi éclairer un peu l'intérieur de ton sac, ouais. C'est là où c'est un intérêt.
Et ça a pas un intérêt, puisqu'on parle d'aile de kite, ça a pas un intérêt en produit de bikepacking, justement, sur du produit très léger?
Carrément, ça peut être une très bonne approche. Typiquement, on utilise de la montgolfière, donc des toiles de montgolfière. Ouais. Au bout de 4000 heures en France, tu peux plus utiliser une montgolfière.
Ouais.
Pourtant, évidemment, la matière, elle est encore nickel, mais on n'a pas envie qu'il y ait un accident.
Non.
Et donc, on récupère cette matière-là et on en fait des housses de vélo qui permettent d'embarquer ton vélo dans le train, donc les petites housses de 90 ouais. par 130 de la SNCF. Et donc, elle est super légère et super compacte. Tu la tiens dans une paume de main, globalement, cette D'accord. housse de vélo.
Quelle est la différence? Alors, on va être un peu technique et moi, je trouve ça intéressant parce qu'on va parler un peu moins de vélo et un peu plus de matériaux. Mais quelle est la différence entre une toile de montgolfière et une toile de kite en termes de propriété?
Bah, ça dépend des, tu vois, même sur une montgolfière, il y a une partie qui ressemble un peu à un spi.
Ouais.
Donc, c'est du ripstop. Donc, le ripstop, en gros, c'est une matière où quand tu fais un trou dedans, le trou ne se propage pas sur toute la.
C'est rassurant.
C'est un peu rassurant, ouais.
C'est un peu rassurant. Le trou de clope. Le trou de clope dans la montgolfière, il devient pas un truc béant.
Exactement. Ouais. Et après, t'as une autre matière qui est au-dessus de la toile de montgolfière, qui s'appelle de l'hyperlast. Un truc ultra fluide qui glisse entre les mains, etc. Et donc, elle est un peu différente, mais après, ça reste globalement des produits légers et résistants.
C'est intéressant aussi quand vous dites la virgule, quand vous me présentiez votre entreprise au tout début, au tout départ, vous faites du matériel pour le vélo, mais est-ce que c'est vraiment que pour le vélo ce que vous proposez?
Non, c'est vraiment, il y a plusieurs usages. Il y en a des sacs qui sont très urbains, donc évidemment, pour un vélo taffeur ou une vélo taffeuse, c'est parfait parce que les produits sont imperméables. Après, on a aussi des produits plutôt type sac de voyage
oui.
qui te permettent d'aller prendre ton train avec ça sur le dos, par exemple. Et on a toute cette partie vélo, donc des sacoches de vélo pour la ville, mais aussi du bikepacking. On s'est mis un gros challenge il y a un an et demi. On a lancé toute une gamme avec des produits étanches, intégralement faits en Europe, et toujours à partir de ce que les marques ou les boîtes avec qui on bosse appellent des déchets.
Et alors, pareil, il y a aussi un autre point là que vous mentionnez qui m'intéresse. Vous dites faites en Europe, mais ça veut dire quoi? Comment est-ce que vous récupérez le matériel déjà, la matière première? Comment vous la sourcez?
Très bonne question. On bosse avec deux acteurs, soit des entreprises qui fabriquent la matière, typiquement un fabricant de toiles de montgolfière. Il va avoir des chutes, des rebuts de production.
Ouais.
Ça, c'est un des premiers gisements. Le deuxième, c'est la montgolfière qui est complète, que j'ai mentionné avant.
Ouais.
Donc là, c'est de la fin de vie. Et donc, on bosse avec
des clubs,
des boîtes, c'est ça, qui ont des clubs de montgolfière. Et donc, on les récupère après ces 4000 heures de vol. Et donc là, première étape, c'est la découpe et le nettoyage.
Alors, avant la première étape, est-ce que vous l'achetez, ce matériel? Comment ça fonctionne?
En fait, une entreprise, on paye des taxes d'ordures ménagères chez nous en tant que particulier. Bah, les entreprises ont les mêmes taxes. Globalement, si je prends l'exemple de Decathlon, ça lui coûte à peu près 300 euros la tonne de détruire du matériel sportif.
Oui, et donc si elle vous le donne?
Et donc si elle nous le donne, du coup, elle nous le donne gratuitement.
Oui, oui.
Alors globalement, souvent, c'est 1 euro la palette parce que le don entre entreprises est interdit pour le petit détail technique.
Oui.
Mais donc globalement, c'est du don.
Donc vous payez 1 euro la palette chez Decathlon ou chez le fabricant de montgolfière?
Oui, et ensuite, donc cette matière-là, elle arrive dans nos locaux à Boulogne-sur-Mer, sur la côte d'Opale. Et donc ensuite, elle est dispatchée dans des ESAT ou des entreprises d'insertion.
Oui.
Et donc, cette première partie de découpe et de nettoyage, elle est assez simple. Tu récupères une grosse montgolfière. Et donc là, c'est coup de ciseau, passage en machine. Et ensuite, tout le challenge, c'est d'arriver à faire des rectangles tout propres
oui.
qui vont là être envoyés à des confectionneurs, donc des entreprises qui font que de la couture et qui sont spécialisées là-dedans. Et ils sont principalement au Portugal.
Parce qu'on ne sait pas faire en France?
On sait un peu faire en France, mais on a perdu énormément de savoir-faire sur des produits en confection lourde, parce que des sacs à dos, c'est de la confection lourde. Il y a les quelques usines en France qui sont capables de faire des sacs à dos, mais malheureusement, à des coûts de production qui sont énormes.
D'accord.
Ouais. Et donc, le Portugal est le bon entre-deux. En fait, faut imaginer que, allez, quasiment plus de 95% des sacs à dos que vous voyez dans la rue sont faits en Asie.
Ouais.
Et donc, déjà, de les rapatrier en Europe et au Portugal, ça devient beaucoup plus proche. Et notre marché qui est l'Europe, du coup, ça a énormément de sens de viser ce marché-là.
Quelle formation vous avez, Nathan? Vous êtes quoi? Vous êtes deux cofondateurs, trois?
On est trois. Donc, on est deux ingés. Moi, j'étais product owner avant, donc plutôt dans l'informatique.
Ouais.
Benoît, qui est à Boulogne-sur-Mer, lui, il était ingénieur produit chez Decathlon, justement.
Ouais.
En fait, toute
dans
l'histoire est partie de là, pour la marque de surf.
Ouais.
Donc, lui, il faisait des tongs.
D'accord.
Ouais. Et après, le troisième, Maxime, lui, il faisait de la planche à voile à haut niveau.
Ouais.
Il a été vice-champion du monde de planche à voile, JO de la jeunesse, etc. Enfin, et donc un gros bourrin du matos,
ouais.
Mais qui voyage partout dans le monde pour des grosses compètes. Et en fait, tu te rends compte, un, les océans sont pollués, ça on le sait tous, et donc t'es confronté à ça. Et de l'autre, quand ta voile elle est arrachée, eh ben c'est poubelle grise et tu sais pas où ça part parce que c'est parcyclé. Et donc c'est vraiment la liaison de ces mondes-là, l'industrie et la pratique, qui nous ont fait créer la marque.
Pourquoi s'intéresser aujourd'hui au milieu du vélo? Si vous, dans l'équipe, vous avez un véliplanchiste, vous pourriez dire on va faire des sacs et du matériel pour les planchistes.
C'est dans les bacs de faire des produits étanches aussi pour le monde du nautisme. Après, on est tous des bons rouleurs. Moi, je suis passionné de vélo, voyage à vélo. Évidemment, on en fait tous au quotidien, et donc c'était un marché qui nous intéressait énormément.
Mais vous vous revendiquez comme une industrie, une entreprise dans le monde du vélo aujourd'hui ?
C'est un de nos axes. On dit vraiment bagagerie et accessoires au global, mais évidemment avec une grosse teneur vélo.
Alors je reviens quand même, parce que vous me disiez les produits que vous recevez, donc c'est des dons, allez, c'est de l'achat, 1 euro la palette que vous achetez aux uns et aux autres. Tout est rassemblé à Boulogne-sur-Mer et tout passe à Boulogne-sur-Mer, c'est ça?
Ouais, je vais préciser parce qu'en fait, on a plusieurs sites. Typiquement, on travaille avec des canots de sauvetage.
Ouais.
Exactement pareil, un canot de sauvetage. Au bout de 15 ans, c'est poubelle parce qu'on n'a pas envie de refaire un Titanic.
Ouais.
Et donc, les canots de sauvetage, ils sont globalement pas mal en Bretagne, aussi un peu sur la côte ouest. Et donc, tout ça part juste à côté de Nantes. Et c'est dans un ESAT aussi. Et donc, on évite au maximum les premiers kilomètres pour pas trimballer un canot de sauvetage qui fait je sais pas combien de kilos. Et avoir au plus vite la matière propre et prête à partir.
Donc le canot de sauvetage qui était sur le pont pendant 15 ans et qui n'a pas servi une seule fois, mais tant mieux, lui il est récupéré, il est découpé à côté et après il est remonté une fois qu'il est en carré?
Ça dépend où il part directement au Portugal, ça dépend un peu des flux logistiques, mais typiquement depuis Nantes ça part directement au Portugal, ouais.
Ça veut quand même dire aussi que à l'arrivée il y a un autre enjeu qui est une sorte de process d'industrialisation, parce qu'aujourd'hui quand vous devez vous poser la question qu'est-ce que je fais de cette montgolfière et qu'est-ce que je fais de ce canot de sauvetage, c'est pas les mêmes matériaux, c'est pas les mêmes usages, c'est pas le même poids, c'est pas le même travail dessus. Comment est-ce que vous arrivez à industrialiser tout ça?
L'industrialisation, elle est assez longue pour l'instant. C'est ce que je disais, c'est une paire de ciseaux et une machine à laver.
Ouais.
Là, on est vraiment en train de travailler maintenant là-dessus avec des machines de découpe automatique ou semi-automatique pour justement éviter d'envoyer des rectangles, mais plutôt d'envoyer la bonne forme qui va être recousue directement. Donc là, on est en cours de ça. Et après, les matières, elles se ressemblent beaucoup. Typiquement, on peut passer de la montgolfière à de l'aile de kitesurf, à potentiellement un autre spi, typiquement une voile de bateau, ça peut marcher aussi.
Mmh.
Et donc, on sait qu'il y a plusieurs matières qui ont les mêmes propriétés.
Ok. Et après, est-ce qu'il y a des matériaux? Parce que là, alors, je découvre avec vous que vous faites aussi bien du canoë de sauvetage, du canoë de sauvetage que du canoë que de la montgolfière. Il y a des matériaux, typiquement, par exemple, l'aile de planche à voile, la voile de planche à voile, c'est encore un matériau différent. C'est un matériau que vous arrivez à travailler?
C'est plus compliqué. Il est très rigide, un peu cassant. Pour l'instant, on sait qu'il y en a énormément, mais c'est pas une matière qu'on a travaillée pour l'instant.
D'accord, donc ça pour l'instant vous savez pas faire?
Non, pas pour l'instant.
Et comment vous avez identifié justement toutes ces ressources, toutes ces ressources de matières premières, comment vous vient l'idée du canot de sauvetage?
Au début, les premières fois, on se trimballait forcément, on était la marque lilloise, donc on est dans le plus gros décathlon de France à côté de Lille.
Oui, oui.
Et puis on faisait tous les rayons en disant, ça c'est pas mal, forcément il nous faut des grandes pièces. On va pas faire de l'upcycling avec des vestes pour enfants ou des petits produits. Donc on regardait les rayons canoë, kitesurf, etc. Chercher des grosses matières. Et au fur et à mesure, on a prouvé que ça marchait avec des kayaks gonflables. Et donc c'est là où on a toqué à la porte de plein de marques. Maintenant, on bosse avec The North Face, Patagonia. Là, on commence avec Arc'teryx aussi. Donc, vraiment énormément de matières. qui viennent d'énormément de marques.
Et ben alors on va en parler justement un peu après de ça, parce que c'est intéressant aussi, c'est-à-dire que vous êtes des solutions pour ces grandes marques-là, mais on en parlera un peu après. Au fait, chers auditeurs, chers auditrices, bah oui, ça fait 15 minutes qu'on se parle. Pas de pause agenda, parce que bah, l'agenda, c'est quand l'émission est en direct. Là, comme l'émission est enregistrée le 7 novembre et qu'elle sera diffusée après, a priori autour du 20, et ben je vais pas vous donner un bon plan de la semaine s'il n'y est pas. On va s'écouter Elie Fellette, 23 Sababa 5. On revient sur la vision de l'économie circulaire, le sourcing, la valorisation, l'industrialisation aussi, avec Nathan Douillard qui vient nous présenter La Virgule, qui est le nom de son entreprise. Mais pour l'instant, on se fait une petite pause musicale. Vous êtes sur Cause Commune, toujours Cause Commune 93.fm. Deuxième partie de Rayon Libre avec Nathan Douillard. Nathan, la virgule, comme on dit. Nathan, vous étiez en train de nous dire avant de reprendre la parole, avant de reprendre la musique, que vous deveniez une solution de recyclage pour des entreprises comme Patagonia, Arc'teryx, North Face. Vous upcyclez des vestes, c'est ça?
Exactement. Ouais, on revalorise des vestes en Gore-Tex notamment, ou des combinaisons de pêche à la mouche qui viennent de chez Patagonia. Ces marques-là, elles essayent de réparer un maximum. Typiquement, Patagonia, ouais. Évidemment, c'était un peu des précurseurs aussi sur ce domaine-là. Mais il y a des trucs qui sont pas réparables en Europe parce que forcément, les coûts de réparation sont super élevés en Europe. Et donc, ou des fois, c'est même pas réparable du tout. Et c'est là qu'on intervient. Donc, exactement le même processus d'avant. Je récupère la combinaison de pêche à la mouche. Elle est découpée.
Sur palette, 1 euro.
Sur palette 1€, ouais. Exactement. Toujours parce que forcément, elle va avoir les coûts de destruction.
Ouais.
En termes d'image, bah pour ces marques-là, c'est évidemment du bonus aussi parce que c'est prouvé qu'elles vont au bout de la circularité. On répare et c'est la brique d'après, c'est de revaloriser.
Est-ce qu'ils vous demandent d'enlever par exemple leur logo ?
Ça dépend des marques. Typiquement avec Patagonia, justement, là, c'est un peu le moment où on essaye de pouvoir laisser leur logo dessus. Mais au début, ils testent. Évidemment, c'est des marques qui sont qui ont pignon sur rue, donc t'as pas envie de laisser ton logo à n'importe qui.
Ouais.
Là, on leur a prouvé qu'on n'était pas n'importe qui. Donc maintenant, on est en train d'essayer d'aller.
Quel âge vous avez ? Quel âge a cette entreprise, la virgule ?
Elle a 4-5 ans là, à peu près. Ouais.
Ouais.
Et donc, c'est encore les tout débuts. Et donc, mais il y a des marques qui sont fans et dont là, typiquement, F1, qui est une marque de kitesurf.
Ouais, bien sûr, Raphaël Salle.
Exactement.
Ouais.
Et donc, F1, ils sont super contents. Et donc, on a les logos F1 à l'intérieur des produits. Là, on va lancer des casquettes. Évidemment, il y aura des morceaux de logo F1. Et donc, le but, c'est qu'après, F1 puisse revendre nos casquettes et nos bananes, parce qu'on fait des petits sacs bananes aussi à partir de ces matos-là. Et donc, eux revendent les produits en pack potentiellement avec une aile de kite.
Et là, ils sont brandés la virgule ?
Brandés la virgule, potentiellement demain la virgule et F1. Enfin, ça peut être aussi des collabs, on en a fait déjà pas mal. Et donc, c'est la circularité à l'état pur.
Ouais. Mais quand vous me parlez, alors F1, c'est donc une entreprise pour les auditeurs et auditrices, c'est un fabricant de kite, c'est une marque française qui est du côté de Montpellier, par là-bas, si je me souviens bien. Raphaël Salle, un ancien champion du monde de planche aussi, d'ailleurs, ou en tout cas, très fort en planche à voile. Mais Patagonia, vous travaillez avec les Patagonia Europe ou vous avez un deal monde ?
Là, c'est Europe, exactement. Le but, c'est de faire du Europe pour Europe.
Ouais.
Si tu habites aux États-Unis, tu pourras pas acheter nos produits.
Ouais.
Et donc, on récupère en Europe, on produit en Europe et on livre en Europe.
Mais alors, si eux, ils savent pas faire et s'ils savent pas gagner d'argent avec ça, comment vous faites pour en gagner ?
En fait, c'est vraiment, faut imaginer des tailles de boîtes. Et nous, on s'est créé avec ce processus de production. Parce qu'en fait, à la fin, c'est un processus de production comme un autre. Mais leur processus de production sont à des années-lumière de ça, parce que c'est des approvisionnements en Chine ou en Asie, au Bangladesh, au Vietnam, etc., avec des coûts de production qui sont 3 à 4 fois moins chers que ce qu'on a nous en Europe, et donc avec des chaînes de valeur qui sont complètement différentes derrière.
Quand tout à l'heure, enfin, vous êtes une entreprise, c'est le sujet un peu du jour sur la circularité de nos objets. Vous disiez aussi, vous travaillez avec des ESAT, donc là, il y a un côté un peu, enfin, même plus que ça, solidaire. Pourquoi vous travaillez avec des ESAT, notamment ?
Parce que, on s'est dit comment on peut résoudre, parce que l'environnement, évidemment, est lié au social à 200%, t'as pas l'un sans l'autre. Et donc, c'était évident que pour des étapes qui sont relativement simples, découper une aile de kitesurf, c'est accessible pour quelqu'un qui potentiellement a un petit handicap. Et donc, c'était tout naturellement qu'on s'est tourné vers ces entreprises-là. Et ça nous faisait énormément de bien parce que quand on arrive dans un atelier, dans un ESAT qui découpe des ailes de kite, eh ben, les gens ont la patate, sont souriants, et ça fait du bien aussi, nous, en termes d'humain, d'avoir ces interactions-là.
Alors, on avait reçu ici un travailleur en ESAT qui est mécano vélo, l'ESAT Berthier. Donc, vous allez faire de la concurrence aux ateliers vélo, en fait. Vous faites de la concurrence aux ateliers vélo.
Pas du tout, parce que souvent, en ESAT, ils ont 1000 activités qui se mélangent bien et au contraire, on pourrait être dans la salle d'à côté.
Donc, il y a un côté circulaire, il y a un côté solidaire. En gros, le point de départ, c'est quoi ? C'est d'avoir une entreprise à impact ?
Exactement. C'est vraiment le cœur du sujet. C'est comment on rend l'outdoor circulaire. C'est notre mission.
Ouais. C'est la mission de la virgule.
C'est la mission de la virgule.
Comment
exactement.
On rend l'outdoor circulaire.
Exactement. Ouais. Donc ça veut dire tu prolonges la fin de vie des matières, donc tu les réutilises et ensuite tu fais du matos qui te permet de pratiquer en réduisant ton impact, notamment quand tu fais une sortie vélo ou du bikepacking, etc.
Et aujourd'hui, quand vous me parlez de Arc'teryx, Patagonia, North Face ou même F1, c'est eux qui viennent vous voir, qui entendent parler de vous et qui viennent vous voir, ou vous êtes encore dans une phase de démarchage auprès de ces gens-là?
Ça commence à être les deux. Au début, évidemment, c'était nous qui allions avec notre bâton de pèlerin toqué à toutes les portes. Mais là, ça commence à rentrer aussi des marques plus ou moins grosses qui nous contactent ou qui ont les mêmes problèmes qualité en fin de vie, en début de vie, en industrie, etc.
Quelle est votre distribution ?
Au tout début, on était une marque 100% en ligne parce qu'on s'est dit on a envie de tout maîtriser, de connaître nos clients, etc. Et on s'est rendu compte, et puis quand tu lis les stats, les gens aiment acheter du matos dans des magasins.
Ouais.
Et donc, on a rencontré Globetrotter, qui est un gros revendeur en Allemagne. Ils ont une vingtaine de magasins. C'est un peu des Decathlon, mais beaucoup plus premium.
Une sorte de vieux campeur.
Ouais, exactement. C'est le vieux campeur allemand, mais boosté aux hormones. Donc, des gros machins.
Ouais.
Et super boîte. Et donc, ils nous ont dit, les gars, avec ces prix-là, nous, on peut pas vous vendre parce que vous avez pas les marges suffisantes pour arriver chez nous. Et donc, on a dû augmenter nos prix, évidemment, avec la problématique qui est de... t'augmentes le prix de tes produits, donc t'es moins accessible, qui était quand même la vocation aussi à la base.
Qui est un peu moins, de tout d'un coup, en phase avec votre signature ou votre promesse, en tout cas.
Exactement. Et puis, on s'était dit, est-ce que nos potes, est-ce que nos familles pourraient se payer ces produits-là ? Et en fait, le choix qui a été fait, c'est de dire, on est obligé d'augmenter nos prix pour être distribué Et pourquoi on voulait être distribué? C'est pour grossir. L'idée, c'est pas de grossir et de devenir les rois du pétrole, c'est de grossir parce que plus on grossira, moins il y aura de déchets.
Ouais.
Et donc, c'est vraiment ça le pourquoi. Donc, ouais, des magasins un peu en France. On est en train d'en chercher des nouveaux en France et en Europe.
D'accord. Peut-être qu'avec Rayon Libre, vous allez en trouver plein. Sait-on jamais. Après la chronique d'Abel, parce que ça fait 25 minutes qu'on se parle, là, d'Abel Guggenheim, j'ai une dernière question pour vous, Nathan. Vous avez 3 minutes le temps de la chronique d'Abel Guggenheim pour y réfléchir. C'est est-ce que vous faites du recyclage directement auprès du consommateur? J'ai, moi, par exemple, une aile de kite qui traîne. Je vous l'envoie. Vous m'en faites un set de bikepacking. Et si oui, combien ça coûte? Vous avez 3 minutes pour essayer de réfléchir à cette question et nous proposer une réponse. Pour l'instant, on écoute Abel Guggenheim. Pareil, je découvre en même temps que vous sa chronique. Abel, c'est à toi.
Cause commune, la voix des communs.
Bonjour. Le 9 septembre, dans ma chronique du numéro 261 de Rayon Libre, je rappelais que Michel Barnier, qui venait d'être nommé Premier ministre, pouvait être considéré comme ayant été, alors qu'il était en 1994 ministre de l'Environnement, le premier homme politique en France a envisagé le vélo comme un réel mode de déplacement en lançant le premier plan vélo national. Et beaucoup dans le petit monde du vélo pensaient que cette nomination, au-delà des questions polémiques que son aspect politique pouvait poser, avait des chances d'être plutôt un bon signe pour le vélo. Michel Barnier a depuis formé son gouvernement dans lequel le président du conseil départemental de l'Essonne, François Durovray, occupe le poste de ministre délégué chargé des transports. Mais celui-ci semble presque uniquement intéressé par sa marotte, les cars express, pour lesquels il avait rédigé un rapport pour l'Île-de-France et souhaite maintenant mettre en place, début 2025, un plan national. Pour le vélo, quelques gestes et paroles, mais surtout des non-gestes et des non-paroles, ont rapidement montré son manque d'intérêt, en particulier en réagissant tard et mollement à la mort de Paul Varry. Lorsqu'est ensuite venue la consigne de faire des économies, François Durovray s'est au contraire monté rapide et déterminé pour annoncer que dans l'ambitieux plan vélo présenté par les ministres qui l'avaient précédé, il honorerait les projets pour lesquels un engagement formel avait été signé, mais aucun de ceux non finalisés par un document financier. Les collectivités locales avaient pourtant été clairement sollicitées de préparer des demandes d'aide concrètes et chiffrées pour de nombreux projets ambitieux d'aménagement coûteux nécessaires à la poursuite du renouveau du vélo en France. Le ministre justifie cette décision par le fait que l'État aurait déjà bien amorcé la pompe et qu'il était temps que les collectivités locales financent elles-mêmes leur réalisation. Le plan vélo de 1994 de Michel Barnier aurait pu permettre à la France de rattraper au moins en partie son retard sur plusieurs pays européens, surtout ceux situés plus au nord qui avaient une politique cyclable bien avancée depuis une vingtaine d'années. Mais notre pays a au contraire mis en place une stratégie de stop and go, jalonnée par des plans et rapports, parfois suivis de quelques réalisations concrètes et ou de dispositions réglementaires, mais avec ensuite de longues périodes d'inaction. Le rapport commandé en 2004 par Jean-Pierre Raffarin à la députée Brigitte Le Breton semble détenir le record de la plus petite durée entre sa remise et son dépôt au fond d'un tiroir. Un autre plan, présenté en 2012 par Philippe Goujon à la fin de la présidence Sarkozy, sera lui aussi mis aux oubliettes au début de la présidence Hollande. La FUB, les collectivités désormais regroupée au sein de l'association Réseau Vélo et Marche, la filière vélo tente de faire revenir sur cette décision. Michel Barnier sera-t-il celui qui aura fait avancer la cause du vélo lorsqu'il était un petit ministre et aura arrêté son essor lorsqu'il a le pouvoir que confère sa position de Premier ministre? À lundi prochain.
Merci beaucoup, Abel. Nathan, il y avait une petite question, deux petites questions pour vous. Est-ce que si un particulier vous envoie son matériel, vous êtes capable de le recycler? Est-ce que vous lui faites un produit spécial avec son aile de kite préférée?
C'est une très bonne question. On aimerait bien, pour l'instant c'est complexe parce que justement on maîtrise pas 100% de la chaîne en interne. Au Portugal, c'est des usines partenaires, c'est pas les nôtres. Donc c'est quand même très complexe de gérer ça. Évidemment, j'ai envie de vous dire, dans 2-3 ans, ça sera possible. Et en tout cas, on tend vers ça et je suis sûr qu'on y arrivera dans les prochaines années.
Après, le particulier, il peut passer par une filière de recyclage qui va être identifiée chez vous et il sera peut-être pas son set d'ailes de kite à lui, mais en tout cas, il aura participé, il retrouvera un morceau de son aile dedans.
Exactement. Ouais. Bon, typiquement, F1, ils ont des bandes de collecte où, en tout cas, ils récupèrent le matos. Decathlon le fait aussi. Et puis après, on le récupère de façon plus industrielle.
Eh ben, merci beaucoup, Nathan, pour vos explications. Auditeurs, auditrices, Nathan aussi, bah, c'est le moment d'enfourcher votre vélo, de faire le tri dans vos affaires, d'aller les recycler, de les déposer, de les amener à vélo, puis qu'elles rentrent dans la filière et qu'elles atterrissent à la virgule. N'oubliez pas d'aller pédaler, parce qu'une journée sans pédaler est évidemment une journée gâchée. Puis je vous dis à tous et à toutes à la semaine prochaine. Restez sur 93.1 FM, Cause Commune. Il est à peu près normalement 14h30. Merci de votre fidélité, merci pour vos messages et vos commentaires, et je vous dis à lundi prochain.
Merci beaucoup.